Émile James Info.
Bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans Émile James Info, le magazine d'information du lycée Émile James à Etel.
Je suis Chantal Fougère.
Et je suis Patrick Dupont. Au sommaire de ce magazine, nous allons vous parler du projet de transformation de la glacière, mais aussi d'un autre projet déjà réalisé sur la commune qui a un succès, le skatepark. Nous ferons également un point sur le traitement des déchets de l'été sur la commune quand il y a beaucoup de touristes.
Dans une seconde partie de ce magazine, nous essaierons de comprendre l'impact du Covid-19 sur la vie locale et sur la vie de notre lycée.
Et pour terminer notre émission, nous nous intéresserons à plusieurs activités du lycée Émile James. Zoom tout d'abord sur un métier méconnu et pourtant très important dans notre vie scolaire. Nous parlerons également rénovation d'une voiture ancienne, mais aussi de ce que nous mangeons à la cantine. Enfin, Émile James connu, pas connu, nous ferons un point sur la notoriété de notre établissement.
C'est un projet phare pour la ville d'Etel. La célèbre glacière qui servait autrefois aux activités de la pêche au thon va être réhabilitée. Elle va devenir bientôt un lieu vivant et culturel, mais aussi un lieu de mémoire. Un projet initié par la commune d'Etel et sélectionné par la Fondation du patrimoine. Cher à l'animateur Stéphane Bern, pour être l'objet d'un loto du patrimoine. Le maire d'Etel et Stéphane Bern au micro d'Aboubacar et de Loïc.
Si on n'a pas ce projet, Etel, dans 5-10 ans, ce n'était plus un port de pêche. Quoi.
Guy Hersan, le maire d'Etel.
Ça deviendrait, avec les nouveaux arrivants, un port de plaisance uniquement. Or, la glacière rénovée, ce sera toujours un point d'appel. Alors, non seulement ça va attirer pour Etel, mais quand les gens auront visité la glacière, ils repartiront avec des informations pour circuler dans le Morbihan, mais pas que sur les côtes. Aller aussi à l'intérieur des terres, visiter un peu, pour un peu dispatcher le flux touristique en juillet-août.
Stéphane Bern, animateur télé et créateur de la Fondation Stéphane Bern pour l'histoire et le patrimoine, qui a appuyé le projet de transformation de la glacière d'Etel.
Ce qui nous intéresse, c'est que d'abord, c'est le témoignage d'une activité industrielle d'après-guerre. Elle a été construite en 1946 pour créer de la glace qui permettait aux thoniers de garder le poisson. Voilà, il faut le réfrigérer, il faut le garder au frais. Donc c'était important pour l'activité des pêcheurs thoniers d'Etel. Et ce patrimoine, évidemment, se dégrade, surtout qu'il est en béton. Et donc, en acier, en béton, ça rouille, surtout avec les embruns de la mer. Et donc, il fallait le restaurer. Mais ce qui nous a plu, c'est le projet de valorisation. C'est-à-dire que la municipalité d'Etel nous a fait un dossier dans lequel on nous explique qu'ils veulent ancrer le projet de reconversion de la glacière sur le thème de la mer, des métiers de la mer, de la sécurité en mer, de l'environnement, de l'histoire de la pêche, de l'histoire des thoniers. Il y a tout ce qui m'intéresse. Il y a à la fois de l'histoire, de la vie industrielle et ouvrière, qu'on parle des gens, qu'on parle derrière le patrimoine, il y a toujours des êtres humains, des gens qui ont travaillé, qui ont sué sang et eau pour aller pêcher les poissons. C'est la vie humaine qui m'intéresse derrière ce béton.
Vous êtes toujours à l'écoute de Émile James Info, le magazine d'information du lycée Émile James. Patrick, il n'y a pas que des projets sur la mémoire maritime à Etel.
Et oui Chantal, il y a aussi des projets qui concernent la jeunesse avec la construction il y a quelques années d'un skatepark près du plan d'eau de mer. Mais comment cette aire de jeu, aujourd'hui très prisée des amateurs de glisse, a été construite? Réponse à nouveau avec le maire de la commune, interrogé par Mano, Samuel et Gaël.
Le risque majeur du béton, compte tenu de la façon dont il est fait et étudié, il n'y a pas d'arête au niveau du béton, quasiment. Donc tout est arrondi. Alors ce qu'on risque, c'est une brûlure plutôt que, comment dirais-je, une fracture. Le béton a ce grand avantage d'être silencieux, parce que nous étions pas à proximité, mais quand même près du plan d'eau et près de certaines habitations, et donc il n'était pas question de créer une gêne pour l'environnement. Il y a une piste, une longue piste, une rampe et un bol. On ne pouvait pas mettre n'importe où et il fallait trouver un endroit suffisamment grand et aussi qu'il y ait une cohérence dans le choix. Il y a le pôle nautique, un gymnase, un terrain de foot. Il y avait un vieux terrain de basket qui ne servait plus trop. Et donc, on a trouvé que c'était le bon endroit.
Etel, c'est aussi une place forte du tourisme régional. Chaque été, notre Ria est envahie par des hordes de touristes séduits par la beauté de nos paysages. Mais comment la commune d'Etel fait-elle face l'été à l'augmentation des déchets ? Pour le savoir, Martial, Arthur et Enzo ont interrogé Franz Castandé, le monsieur réduction des déchets à la communauté de communes. On l'écoute.
Sur la période de l'été, donc sur les 3 mois d'été, on a une concentration de déchets qui est supérieure puisqu'on ramasse en fait 8% des déchets que l'on collecte sur toute l'année sont collectés durant les 3 mois d'été. Donc c'est donc forcément on reçoit beaucoup de visiteurs durant l'été. Il y a environ 200 000 visiteurs qui viennent chaque été sur le territoire. Donc oui, on a forcément une augmentation des déchets qui sont collectés. Depuis maintenant, ça va faire 4 ans, on va à leur rencontre, notamment sur les campings, parce qu'on a beaucoup de campings sur le territoire, il y a 76 campings. Donc on va à la rencontre des gérants pour leur donner des outils afin de mieux gérer leurs déchets. Donc ça va être par exemple leur fournir des guides qu'ils pourront remettre aux campeurs qui viendront durant l'été. Ça va être leur donner aussi de l'affichage et des autocollants pour que les consignes de tri aussi soient bien respectées. Et puis du matériel comme des sacs jaunes par exemple pour faciliter le tri. Au-delà de ça, on propose aussi de former les gérants aux consignes de tri pour qu'ils puissent mieux aiguiller les campeurs qui vont venir sur le camping. Et puis, il y a certains campings qui ont accepté même d'aller plus loin sur des questions de réduction des déchets, où on a installé par exemple des composteurs au sein des campings. Donc on a 20 campings qui se sont engagés dans le compostage.
Parlons désormais Covid-19, crise sanitaire, confinement. Depuis près d'un an, nous vivons avec ce virus qui perturbe notre vie quotidienne. C'est le cas de nombreux commerces d'Etel qui ont dû s'adapter pour survivre. Nicolas et Alexime sont allés à la rencontre d'un restaurateur et d'une coiffeuse. Écoutez.
Monsieur Luc Elenekian, restaurateur à Etel. Bah là, je fais de la vente à emporter. Donc je fais les fish and chips, je fais les burgers, Là, en ce moment, je fais des tagines de poulet, je fais du rougail saucisse. Enfin, j'essaie de diversifier un peu, quoi.
Et comment vous faites pour communiquer?
Bah là, j'ai ma porte qui est ouverte, je sors mes panneaux, j'allume, et puis voilà, ça se fait par le... J'ai un stop-trottoir là qui est là, que je vais mettre là tout à l'heure, là. Et puis les gens, bon, avec la lumière d'allumer, la porte qui est ouverte, et puis les prix qui sont affichés, c'est complètement aléatoire. Et puis, à partir du moment où il y a des gens qui travaillent dans le coin, là, ici, des ouvriers ou des choses comme ça, oui, ils viennent, si je suis ouvert, ils viennent me demander des plats, mais c'est vrai que c'est pas les Etelois qui me font travailler, quoi.
D'accord.
Pas beaucoup, on va dire. Là, par contre, avec le tourisme, il y a eu un petit peu de monde, ouais, parce que de toute façon, ils ne pouvaient pas aller à la neige, donc ils sont venus ici.
Catherine, du salon de coiffure Technicair, à Etel.
Moi, c'est différent, c'est une clientèle de longue date, hein, donc c'est des clients fidèles. Et donc, du coup, par contre, j'ai toujours fait un transfert d'appel, déjà plus d'une semaine avant. Comme ça, les gens ont pu déjà prendre rendez-vous longtemps à l'avance. Et puis, au moins, on savait que quand on démarrait, on était débordé. Donc, par contre, on fait beaucoup plus d'heures, quoi.
Voilà, nouvelle façon de faire pour les commerçants. Mais dans notre lycée aussi, nous avons dû changer nos habitudes. Port du masque, désinfection des mains en début de cours, aération régulière des salles. Pour les internes du lycée, c'est aussi une autre vie. Pas très drôle en fait. Kevin, Elouane et Mathis sont allés interroger deux d'entre eux. Écoutez.
Je suis élève de Emile James depuis un an maintenant. Nous avons plus le droit d'aller voir nos amis dans les chambres. On doit porter notre masque tout le temps. Quand on veut aller aux toilettes, c'est un peu embêtant quoi. La vie n'est plus pareille. On travaille beaucoup moins parce que nous avons plus d'études obligatoires le soir. Donc l'étude se fait dans les chambres et y a beaucoup moins de travail.
On n'a plus le droit de se balader dans les couloirs sans les masques avec le corona. On doit laisser nos chambres ouvertes, on peut plus comment utiliser les jeux de société, on est obligé de jeter nos masques dans une poubelle spéciale et de façon plus générale on doit garder les distanciations. On n'a plus d'études, On n'a plus d'études parce que c'est dans des salles et du coup avec le corona c'est plus possible. Du coup on doit les faire dans nos chambres et on va pas se cacher, on bosse pas tout le temps dans nos chambres, genre on n'est pas autant surveillé que si on était dans une salle normale quoi. Du coup ouais, le travail personnel déjà ça en prend un coup, puis même avec toutes les restrictions etc, c'est dur, c'est pesant quoi. On se fait engueuler quand on n'a pas le masque, des fois ça m'arrive d'oublier le masque, genre par exemple le matin quand on va manger. Et du coup, je suis obligé de retourner à l'internat en précipitation. Quoi.
Voilà pour les élèves et les internes. Et du côté des professeurs, Chantal.
Ils sont aussi éprouvés, Patrick. Depuis le début de cette crise, leur métier a bien changé. Et ils ont dû faire face à différentes difficultés. Écoutez ce qu'en dit Christophe Epardo, professeur de français au lycée Émile James, interviewé par Lenny, Yoven et Issa.
Enseigner pendant la crise sanitaire, c'est des contraintes supplémentaires. Ce qu'on appelle les gestes barrières. Le port du masque en classe, qui ne facilite pas effectivement la communication. Alors on essaye de parler fort, mais les élèves ne voient pas forcément les expressions du visage. C'est compliqué parfois d'entendre les élèves. Ce qui est aussi un peu particulier, c'est que, notamment pour les entrants, les élèves de seconde par exemple, pour la plupart, je ne connais pas leur visage, mais que le haut du visage, que les yeux. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Ensuite, bon, bah effectivement, il y a aussi penser à aérer les salles, mettre du gel avant d'entrer en salle. C'est beaucoup de contraintes. Alors, je pense que effectivement, le confinement a un réel impact sur le travail des élèves. En sachant que pour certains, depuis le mois d'avril 2020, certains avaient décroché. Donc la reprise a été assez difficile. Ils avaient perdu des habitudes de travail. Donc là, je pense qu'il y a eu un réel impact là-dessus.
Vous êtes toujours à l'écoute de Émile James Info, le magazine d'information du lycée Émile James. Chantal, il n'y a pas que le Covid dans la vie, n'est-ce pas ?
Et non Patrick, car la vie continue. Dans notre lycée, il y a plusieurs corps de métiers qui font vivre la vie scolaire au quotidien. Et parmi ces métiers, il y en a qui restent assez méconnus des élèves. Celui de professeur documentaliste. Et pourtant, c'est un métier essentiel dans la vie scolaire. Pour mieux connaître ce métier, en compagnie de Sohaili, j'ai rencontré Sophie Nago, professeur documentaliste au lycée Émile James.
Je m'appelle Sophie Nago, je suis professeur documentaliste au lycée Émile James depuis 7 ans maintenant. J'ai passé le CAPES de documentation, donc j'ai fait des études de lettres. Et après une licence de lettres modernes, j'ai passé le concours, le CAPES, à ce moment-là.
Quelle est la différence entre votre métier et celui d'un professeur ?
Alors, nous avons le même concours. Nous avons certaines missions en commun, par exemple, donc tout ce qui est enseignement. Par contre, j'ai la particularité de gérer en plus le CDI, le Centre de Documentation et d'Information. Donc, je forme les élèves à l'éducation aux médias et à l'information. Et j'accueille aussi les élèves en consultation libre des ressources documentaires. Il est compliqué parce qu'il est multiple, c'est-à-dire que je ne fais jamais la même chose et qu'il est parfois difficile de pouvoir assurer toutes les missions aussi bien qu'on le souhaiterait par manque de temps. J'ai différentes missions, celles d'enseignement, celles d'accueil, mais aussi celles d'ouverture culturelle par exemple, qui prennent beaucoup de temps. Donc, j'aimais enseigner, mais je ne souhaitais pas forcément être enseignante d'une seule matière. J'aime le contact avec les jeunes, donc là, c'était le bon compromis. Nous ne sommes pas estimés au même titre que les autres enseignants, de par l'image déjà. Peu d'élèves pensent qu'on a une mission d'enseignement.
Pour moi, vous vous occupez juste des livres, quoi. Et puis les élèves, ils viennent, ils vous demandent s'ils peuvent emprunter un livre, et puis voilà. Enfin si, quand même, vous aidez quand même une partie à l'éducation des jeunes, parce que s'ils ont une question, ils peuvent toujours vous la poser. Vous savez y répondre. Mais pour moi, ouais, ça n'avait pas une telle ampleur, en fait, sur la vie des jeunes.
Voilà, on espère que vous comprenez mieux désormais le métier de documentaliste. Une autre activité méconnue au sein du même lycée, la restauration de voitures anciennes. Le saviez-vous ? Une Mustang de 1965 est actuellement rénovée par les élèves de la filière de carrosserie de CAP. Mais quelle est la différence entre réparer une voiture ancienne et une voiture plus récente. Réponse avec Loïc Tribucien, professeur de l'atelier de carrosserie du lycée, interrogé par Antonin et Johan.
Alors les techniques sont un peu différentes des véhicules plus récents, dans le sens où ce sont des matériaux qui ne sont plus d'actualité sur les véhicules actuels. Les techniques sont... Le problème sur les véhicules anciens, notamment sur certains pour lesquels on a du mal à trouver les pièces, il va falloir être soit restaurer des pièces anciennes qui sont des fois dans un état d'usure plus avancé, notamment dû à la corrosion, ou dans certains cas même devoir refabriquer certains morceaux de pièces, parties de pièces, parce qu'on ne les trouve plus ou parce que c'est plus simple que de trouver des pièces ou de les faire venir de je ne sais où. Les normes, non, il n'y a pas spécialement de normes. Le carrossier doit travailler dans les règles de l'art, c'est-à-dire respecter la conception du véhicule qui a été mise en place par le constructeur à la base. Après, il faut respecter un minimum de normes de sécurité, surtout, même si pour les véhicules anciens, évidemment, les normes de sécurité sont celles de l'époque, donc sont beaucoup moins rigoureuses qu'actuellement, notamment au niveau des systèmes de freinage, au niveau des systèmes de sécurité, de retenue diverses et variées. Au niveau de la tenue de route, sur un véhicule ancien, évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes critères en termes de réparation que les véhicules actuels.
Patrick, vous n'auriez pas un peu faim après ce voyage avec les voitures anciennes ?
Et si Chantal, j'ai faim et ça tombe bien, direction la cantine de notre lycée. Chaque jour, notre cuisinier en chef nous concocte de bons petits plats, mais le saviez-vous ? De plus en plus, il utilise des produits bio dans sa cuisine. Explication avec Arnaud Marie, le chef cuisinier du lycée, au micro de Wajid, Kylian et Romain.
Tous les collèges, tous les lycées, par exemple du département du Morbihan, il y a un groupe qui s'est rassemblé et qui dit voilà, nous on va travailler du fromage blanc bio, du yaourt bio, ben bref, et après du conventionnel, donc du yaourt, bref, et en fait il y a un marché. Moi on me demande par exemple combien je vais passer de yaourt l'année prochaine. Je pense qu'on va y venir de plus en plus sur le bio, mais de façon progressive, ça va mettre beaucoup plus de temps que ça l'est. On voit bien aussi qu'il y a de plus en plus de fournisseurs, parce qu'avant, en fait, le problème, c'est que les établissements scolaires, ils avaient besoin d'un volume, ou c'est que les gens qui fournissaient en bio, ils n'arrivaient pas forcément à couvrir la quantité qu'ils avaient besoin. Donc, ça commence à venir, et je pense qu'on va travailler de plus en plus, et puis le coût du bio va réduire petit à petit. Ouais. C'est que, en fait, votre génération, en fait, un produit bio pour vous, est-ce qu'il est meilleur ou pas meilleur? Parce qu'en fait, je vois bien, c'est que, tu vois, par exemple, de temps en temps, vous avez dû voir sur la rampe de self ici, là, cette ferme de Carvillon, le Colmadon, voilà, c'est du bio. Par contre, le produit par lui-même, en termes de goût, il n'a rien à voir avec un produit conventionnel.
Vous l'avez entendu, entre la restauration de voitures anciennes et la restauration bio, on fait de belles choses et on mange bien à Émile James. Mais sommes-nous pour autant célèbres ? Pour le savoir, Axel et Antonin se sont interrogés sur la notoriété de notre établissement. Ils sont partis à la rencontre de plusieurs élèves du collège de la Riad Etel. Écoutez.
Moi j'aime bien tout ce qui est mécanique, bateau ou auto. Je trouve qu'en professionnel on peut plus s'orienter vers une voie. On choisit un peu notre orientation. On peut commencer à voir le travail, quoi.
Donc, chaque année il y a des élèves qui donc soit se destinent à l'enseignement général et d'autres qui se destinent à l'enseignement professionnel. Donc pour ceux et celles qui veulent aller dans la voie pro, moi je leur conseille effectivement vivement de faire des stages donc, dans les différents lycées professionnels. Donc régulièrement, on a des offres de mini-stages qui viennent de lycées professionnels, hein, donc Jean Guénaud, au lycée Emile James, Marie Franc, etc. Et donc moi, je les incite à y aller parce que beaucoup d'élèves ne savent pas trop dans quelle voie se diriger. Donc plus ils font de stages, plus ils construisent leur projet. Et puis donc voilà, ils ont aussi une vision plus précise de ce qu'ils veulent faire. Mais faire des stages dans des lycées professionnels, faire les portes ouvertes, ça me paraît effectivement essentiel pour les élèves qui veulent aller dans la voie professionnelle.
Voilà, il y a encore du chemin à faire pour que notre lycée soit connu à sa juste valeur, mais ça progresse petit à petit.
Oui Patrick, en tout cas, c'est la fin de ce magazine. Merci de votre attention. Ce programme a été préparé dans le cadre d'un atelier d'éducation aux médias. Nous tenons à remercier tous les professeurs qui ont encadré cette opération, ainsi que Raphaël Baldos et Nicolas Milis, les deux journalistes qui nous ont initiés aux bases de leur métier. Merci à vous, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle émission. Merci Patrick.
Merci Chantal, prenez soin de vous, vous aussi, et à bientôt.